VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 2 novembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, le oui l'a emporté à une majorité écrasante lors du référendum constitutionnel de dimanche.
Au Mali, Ansar Dine a catégoriquement nié hier avoir consenti à une trêve à travers le pays.
Au Niger, 18 personnes au moins ont été tuées, 43 autres blessées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans la région de Tawa.
Limogeage du commandant de la force onusienne au Soudan du Sud après la publication d'un rapport accablant sur ses casques bleus.
À Mossoul, les forces spéciales irakiennes ont pris le contrôle des installations de la télévision d'État dans le dernier bastion des djihadistes.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal.
Les électeurs ivoiriens ont adopté à une très large majorité de 93,42% la nouvelle constitution soumise par le président Alassane Ouattara à un référendum, a annoncé mardi la commission électorale. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président de la commission, Youssouf Bakayoko, a précisé dans une intervention à la télévision nationale que le taux de participation pour le scrutin qui s'est déroulé dimanche était de 42,41%. Alassane Ouattara a justifié son initiative en expliquant que la nouvelle loi fondamentale aidera la Côte d'Ivoire à tourner la page d'une décennie de violence qui avait abouti à une guerre civile en 2011. Pour l'opposition qui avait appelé au boycott, cette consultation référendaire était un stratagème politique afin de permettre à la coalition soutenant le chef de l'État de renforcer sa position. Compte tenu de la consigne des opposants, l'issue du référendum faisait peu de doutes et l'enjeu principal concernait la participation, indicateur du soutien de l'opinion publique à cette mesure.
Mali, le groupe djihadiste Ansar Dine a catégoriquement nié hier avoir consenti à une trêve dans le pays et il a exprimé son étonnement et sa grande surprise. C'était en réaction à la déclaration lundi de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Monsieur Diko y disait avoir reçu fin septembre une lettre dans laquelle le chef d'Ansar Dine, Iyad Aghali, aurait annoncé un cessez-le-feu unilatéral dans tout le pays. Dans un communiqué reproduit par l'agence mauritanienne Al-Ahbar et CIT, Centre américain de surveillance des sites djihadistes, le chef d'Ansar Dine dément donc fermement l'information.
Au Niger, 18 personnes au moins ont été tuées, 43 autres blessées et plusieurs maisons incendiées hier dans des affrontements entre des agriculteurs et des éleveurs près d'une localité appelée Bangui dans la région de Tawa. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, le calme est revenu grâce au déploiement des forces de défense et de sécurité et des patrouilles pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les affrontements à l'arme blanche ont éclaté dans la matinée lorsqu'un troupeau de bovins appartenant à un éleveur, a dévasté un champ de céréales. Selon des déclarations au téléphone d'un élu local à l'AFP sous couvert de l'anonymat, c'est la mort du propriétaire du champ dans une première altercation qui a mis le feu aux poudres, a-t-il dit, précisant, déplorant un nombre important d'enfants et de femmes parmi les morts. Les affrontements étaient d'une rare violence, c'était très barbare, c'est indigné, c'est élu.
Au moins 8 membres présumés de Boko Haram sont morts hier dans l'explosion de leur camion piégé près d'un barrage militaire non loin de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Nani Talani.
D'après le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, les 8 hommes ont essayé de se faire exploser à un barrage militaire, mais les soldats les ont empêchés d'y accéder. Et en faisant demi-tour, le camion a explosé. Pour le porte-parole de la police de Maïdougouri, Victor Issoukou, 9 personnes à bord du camion ont été tuées. Ce barrage militaire était le dernier poste de contrôle avant de sortir de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Il y a 3 jours, cette ville a été frappée par 2 attentats kamikazes qui ont fait 9 morts. Le 12 octobre, un attentat à la voiture piégée dans une gare routière avait fait 8 morts et une quinzaine de blessés. Toutes ces attaques ont été attribuées au groupe Boko Haram. Le nord-est du Nigeria est ravagé depuis 7 ans par un conflit qui a débordé vers les pays voisins et qui aura fait au moins 20 000 morts et quelque 2,6 millions de déplacés.
Rapport accablant sur les casques bleus au Soudan du Sud. La force onusienne est accusée d'inefficacité et son commandant limogé. Eric Manirakiza.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré profondément affligé par les conclusions et inquiet des graves lacunes identifiées. Selon le rapport, les casques bleus ont réagi de manière chaotique et inefficace aux violences de juillet à Djouba et n'ont pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. Le commandant de la force a été immédiatement limogé. Le rapport souligne aussi l'échec à répondre à l'incursion le 11 juillet de soldats sud-soudanais dans un hôtel abritant des employés d'organisations internationales et proches d'une base des Nations Unies. Des combats meurtriers avaient opposé du 8 au 11 juillet les troupes du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle Riek Machar, alors vice-président du pays. L'enquête dirigée par le général néerlandais à la retraite, Patrick Kammaert, met en cause des lacunes de commandement, le manque de préparation des casques bleus face à l'imminence prévisible d'une reprise des affrontements entre forces gouvernementales et rebelles sud-soudanais et une aversion au risque, les rendant réticents à user de la force pour protéger les civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces spéciales irakiennes ont pris le contrôle des installations de la télévision d'État à Mossoul même, pendant que la coalition pro-Bagdad poursuit son offensive pour chasser les extrémistes du groupe État islamique de leur dernier bastion en Irak. Selon les journalistes kurdes et occidentaux qui accompagnent les combattants de la coalition, ces derniers se heurtent à une résistance farouche dans la ville, ainsi qu'à des obstacles et bombes posées par le groupe État islamique visant à ralentir leur progression.
Quelque 600 000 enfants sont parmi les civils piégés dans Mossoul, a indiqué hier Save the Children. L'ONG appelle à l'ouverture de couloirs humanitaires pour sauver des vies humaines. Les détails avec John Linden.
Pour Save the Children, cela devrait permettre à la population de fuir le fief du groupe État islamique que les forces irakiennes ont décidé d'aller reconquérir. Il s'agit d'un moment crucial pour protéger les enfants et ouvrir des passages sûrs permettant à quelque 1,5 million de civils, dont 600 000 enfants, encore piégés dans la ville de l'Aquité en sécurité, a affirmé l'organisation non gouvernementale. Un peu plus de deux semaines après le début d'une vaste offensive, les soldats irakiens sont entrés hier dans la deuxième ville d'Irak, commençant ainsi la véritable bataille pour la reprise de Mossoul. Nous ne pouvons attendre que la situation d'Alep en Syrie se reproduise, alors qu'on a la possibilité de sortir les enfants de la zone de combat, a déclaré Mauricio Clivellaro, directeur pour l'Irak de Save the Children. Selon des estimations, plus d'un million de personnes sont prises au piège dans cette ville, conquise en juin 2014 par le groupe État islamique qui en a fait la capitale de son califat autoproclamé.
Présidentielle américaine, Donald Trump, le candidat républicain revigoré par un resserrement des sondages, a attaqué hier avec virulence Hillary Clinton. Sa rivale démocrate, il faut le dire, lui a largement rendu l'appareil à moins d'une semaine de l'élection. Hillary Clinton reste la favorite dans la course à la Maison-Blanche, mais Donald Trump assure qu'il va gagner, surtout après un sondage ABC Washington Post qui lui donnait mardi 46% des intentions de vote contre 45% à Mme Clinton. Le 22 octobre, les pourcentages pour ce même sondage étaient de 50% pour Mme Clinton et de 38% pour M. Trump. Mais il y a eu depuis la relance surprise par le FBI de l'affaire des emails de Mme Clinton. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
En Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye a limogé aujourd'hui son chef de gouvernement et deux de ses principaux ministres. C'est en réaction à un scandale politique majeur impliquant son ex-confidente toujours en garde à vue. Surnommée Rasputin par les médias, cette confidente est visée par une enquête pour trafic d'influence et corruption. Elle est soupçonnée d'avoir profité de ses entrées pour extorquer de l'argent aux principaux conglomérats du pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
Le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne panafricaine Sky, Gervais Kofi Diondo, a été désigné lauréat du prix spécial de reconnaissance pour la créativité et l'excellence globale, décerné par le magazine West African Business and Leadership. Monsieur Diondo a été cofondateur d'EcoBank avant de se lancer dans la création de Sky avec des institutions régionales. Nestlé Côte d'Ivoire a porté son résultat net semestriel à 2,15 milliards de francs CFA en hausse de plus de 55% par rapport à juin 2015. Le résultat des activités ordinaires a enregistré un bond de plus de 47% à 2 milliards de francs CFA dû principalement à la baisse des charges financières. L'Africa Agri Forum 2016 se tiendra du 3 au 4 novembre à Abidjan. Plus de 350 professionnels en provenance de 30 pays sont attendus. La rencontre se concentrera sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Les groupes dévoilés pour le tournoi de football de l'UEMOA.
Oui, le pays organisateur, le Togo, dans le groupe A face au Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Dans le groupe B, le Burkina Faso, tenant du titre, affrontera le Sénégal, le Bénin et la Guinée-Bissau. Le compte-rendu sur ce tirage au sort avec Élisée Oungpatine.
Pour cette édition de 2016, les organisateurs ont reconduit le tirage effectué déjà en 2014, puisque cette année, la compétition étant annulée pour cause d'Ebola. Ainsi, dans la poule A, le pays hôte, le Togo, est accompagné du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. On retrouve dans la poule B les deux derniers finalistes, le Burkina Faso champion en titre et le Bénin. Ensuite, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le match d'ouverture pour la 7e édition de ce tournoi est prévu le 26 novembre prochain à Lomé et ce sera entre le Togo et le Mali. À noter que seuls les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la finale qui aura lieu le 3 décembre toujours à Lomé. Élisée Oungpatine, Boycon, VOA Afrique.
On parle à présent, Idrissa, de la 4e journée de la Ligue des Champions qui avait lieu hier soir.
Groupe A, Ludogorets 2, Arsenal 3, Bâle 1, Paris Saint-Germain 2. Groupe B, Benfica 1, Dynamo Kiev 0. Besiktas Naples 1 partout. Groupe C, Manchester City 3, FC Barcelone 1. Borussia Mönchengladbach 1 partout avec Celtic Glasgow. Groupe D, Atlético Madrid 2, Rostov 1. PSV Eindhoven 1, Bayern Munich 2. Suite du Tour du Faso en cyclisme.
La 5e étape entre Kogologo et Boromo, remportée par l'Érythréen Solomon Zemenfes. Au sprint devant l'Algérien Nassim Saïdi, Zemenfes empoche le maillot jaune devant deux Burkinabés, Saïdou Bamogo et Haruna Il Boudou.
Le footballeur Miroslav Klose met un terme à sa carrière de footballeur et intègre l'encadrement de l'équipe nationale.
L'Allemand recordman des buts marqués en Coupe du Monde 16 a officiellement mis un terme à sa carrière. Il va rejoindre l'encadrement de la Mannschaft, l'équipe nationale allemande. À 38 ans, Klose va désormais se consacrer à une formation d'entraîneur et intégrer immédiatement le staff de Joachim Löw, le sélectionneur des champions du monde. On rappelle que son contrat avec la Lazio de Rome avait expiré en juin. Il était depuis sans club. Enfin, la NBA avec vous, Idrissa. Quelques résultats du championnat de basket nord-américain cette nuit.
Houston 120, Cleveland 128, Orlando 103, Philadelphia 101, LA Lakers 108, Indiana 115, Sacramento 96, Miami 108, New York Knicks 89, Détroit 102. Milwaukee 117, New Orleans 113, Memphis 80, Minnesota 116, Utah 106, San Antonio 91, Golden State 127, Portland 104.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la dernière ligne droite de la présidentielle américaine. La relance de l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton et les révélations de propos obscènes par Donald Trump risquent-elles d'influer sur le scrutin du 8 novembre? Les sondages reflètent-ils la réalité du terrain? Quels sont, d'après vous, les enjeux de cette élection? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le oui l'a emporté à une majorité écrasante lors du référendum constitutionnel de dimanche. Pour être président, le nouveau texte stipule qu'il faut être de père ivoirien ou de mère ivoirienne. Pour autant, est-ce que cette nouvelle constitution règle la question de l'ivoirité qui avait plongé ce pays, la Côte d'Ivoire, dans une guerre civile meurtrière ? Idriss Fall a recueilli la réaction de Kouadio Konan Bertin, alias Kakabé, vice-président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale.
On aurait pu le penser si les Ivoiriens avaient été associés à la nouvelle constitution et s'ils y avaient adhéré. Tel n'est pas le cas. Depuis l'origine de cette nouvelle constitution, dans sa rédaction, qui avait été confiée donc à un comité d'experts qui lui-même manquait de légitimité populaire, comité d'experts de par la volonté unique du chef de l'État, il vient de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Le peuple ivoirien n'a pas été associé. On a simplement poussé la forfaiture jusqu'à faire jouer aux députés à l'Assemblée nationale un rôle qui n'est pas le leur, un coup de force constitutionnel. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dit-on, ont été aux urnes. Nous savons très bien que sur le terrain, ils ont boudé les élections. Quand c'est pas le boycott par endroit, le taux de participation s'élève maximum entre 9 et 11%. Ce que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que de la supercherie. Ça ne reflète pas la volonté des Ivoiriens. On vient donc certainement de leur imposer une nouvelle constitution. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? D'après les Anglais, wait and see.
La première chose, c'est le poste de vice-président. Ça va déclencher peut-être quelques querelles de succession, non?
Ce n'est même pas forcément de ça, les querelles de succession, qui intéressent les Ivoiriens. Nous sommes un État républicain, que le principe de la République, c'est le pouvoir du peuple. Les Ivoiriens vont se retrouver devant une situation où on va leur nommer un successeur qui, visiblement ou probablement, va être président de la Côte d'Ivoire sans avoir été élu par les Ivoiriens. Voilà le cas de figure qui consacre un recul net la démocratie de notre pays.
Et qu'en est-il de la création d'un Sénat?
Tout ça est budgétivore. Même en France, pays développé où ils ont beaucoup d'argent, ce sont là des institutions de luxe. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens aujourd'hui de se le permettre quand on sait la pauvreté dans laquelle croupissent l'ensemble des Ivoiriens. Ce sont des institutions qui n'ont pas vraiment aujourd'hui leur raison d'être.
Est-ce que vous pensez que cette constitution va clore tous les problèmes de la Côte d'Ivoire?
Ce que je constate, c'est que la première constitution, celle que nous avons encore en vigueur, elle a été votée en 2000 par l'ensemble des Ivoiriens, dit-on, à 86%. Pourtant, 2 ans après, ça n'a pas empêché qu'elle nous conduise, n'est-ce pas, au désastre. Cette fois-ci, voici une constitution qu'on peut aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, visiblement, ne l'ont pas accepté. Ils sont dans la rue pour s'y opposer. Ils n'ont pas été aux élections. Même si on a revu les chiffres à la hausse, comme il fallait s'y attendre, cela pose évidemment le problème de la crédibilité de nos institutions, surtout la crédibilité de la CEI.
Pourtant, on a l'impression que le patron du PDCI a donné sa baraka, notamment l'ancien président ivoirien, non?
Oui, mais l'ancien président ivoirien, il y a 10 ans en arrière, c'est lui qui avait dit tout à fait le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Comme quoi, la politique a son autopique.
C'était Kouadio Konan Bertin, alias Kakabé, vice-président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En République démocratique du Congo, il ne reste plus qu'une semaine pour la mise en place d'un gouvernement de transition, selon le calendrier issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Mais à l'initiative du président Joseph Kabila, la Conférence nationale épiscopale du Congo, la CENCO, consulte de nouveau le camp du dialogue et l'opposition qui a boycotté ses assises. Entre-temps, certains membres du rassemblement, plateforme regroupant le plus grand nombre de forces vives opposées au dialogue, ont commencé à signer l'accord rejeté. Pour nous en parler, Idi Sango a joint le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound.
Le rassemblement était bel et bien contacté. La CENCO nous a fait savoir qu'elle était prête à jouer la médiation, qu'elle était prête à contacter les deux parties et faire des propositions. M. Kabila a compris qu'il faille discuter directement avec le rassemblement et comme ça se passe par l'entremise de la CENCO, les princes de l'Église vont aider que le pays puisse aboutir à un accord qui va respecter le prescrit de notre constitution.
C'est à l'initiative du président Joseph Kabila que la CENCO a commencé. Est-ce que vous allez accepter?
Nous avons toujours dit que le problème dans ce pays, c'est M. Kabila. Il n'y a que lui seul qui peut aider à ce que la crise soit décantée. Et s'il prend l'initiative de reconnaître sa lourde responsabilité qu'il a vis-à-vis du Congo, vis-à-vis de l'histoire, et au jour d'aujourd'hui, la CENCO est chargée de mener des contacts, nous espérons que ça va marcher.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces nouvelles concertations que mène la CENCO? Parce que déjà, nous apprenons que quelques membres du rassemblement ont commencé à signer l'accord de la cité de l'OIA. Est-ce que vous ne serez pas amené aussi à signer le même accord?
Non, l'un de là, vous connaissez bien les positions du président Tshisekedi, qui est président du comité de salle du rassemblement. Il n'est pas question qu'on aille signer un quelconque accord, surtout qu'il résulte d'un monologue. Là, il est hors de question. Ici, nous allons discuter froidement sur le vrai problème dans ce pays, les élections. La fin du mandat de Kabila, qui est des gens qui prétendent être du rassemblement, qui vont signer l'accord, c'est de leur droit. Personne n'est surpris de cette attitude parce qu'on sait que le régime de M. Kabila lui-même, c'est un régime qui est habitué au débauchage, à l'achat de conscience.
Que va-t-il se passer? Vous avez prévu un rassemblement le 5 novembre et au 20, vous avez appelé à des manifestations pour faire partir Kabila. Mais entre-temps, il y a ces concertations annoncées avec la CENCO. Que va-t-il se passer exactement?
Nous allons faire comme les Américains. Nous négocions à gauche et à droite. Nous continuons à nous battre. S'il n'y a pas un vrai dialogue pour apaiser la tension, je crois que la deuxième option est toujours là. Nous allons nous battre pour faire respecter notre constitution. Notre meeting se tiendra bel et bien à la date et à l'heure indiquée. Qu'il n'en fait plus à ceux qui pensent qu'ils ont le droit de violer la Constitution, violer l'article 26 de notre Constitution, mais nous disons que nous serons là et nous tiendrons notre meeting.
Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS et membre du Rassemblement.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Pour rester en RDC, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé hier avoir commencé à transférer près de 30 000 réfugiés sud-soudanais éparpillés le long de la frontière dans la région de l'Ituri, située dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibour a joint la coordinatrice de la Commission nationale des réfugiés pour le ministère de l'Intérieur, Berthe Zinga.
C'est vrai qu'en quelques mois, nous sommes passés de 11 000 réfugiés soudanais du Sud à 60 000 pour le moment. Mais la RDC est un pays hospitalier et nos portes restent ouvertes. Aussi longtemps qu'il y aura des demandeurs d'asile, nous allons les accueillir et au fur et à mesure, nous allons les reconnaître, nous allons leur octroyer le statut de refugié selon la Convention de l'Union africaine.
Craignez-vous des réactions négatives? Certains Congolais voient-ils d'un mauvais œil l'arrivée de ces réfugiés?
Pas du tout. Bon, je dirais qu'on s'est quand même préparé. Il y a eu des activités de sensibilisation, il y a eu des sensibilisations pour une cohabitation pacifique. Et l'approche actuelle avec le HR est plutôt des congés communautaires, vous savez. On ne donne pas qu'aux réfugiés. Par exemple, les écoles ne seront pas que pour les réfugiés. Donc les populations hautes vont aussi bénéficier. Lorsqu'on va faire les centres de santé et qu'on va donner des médicaments, on donnera aussi aux populations hautes. Ceci va plutôt encourager la cohésion. L'approche actuelle avec nos partenaires, c'est de s'orienter vers des projets communautaires. Pour ne pas qu'on stigmatise les réfugiés, nous faisons plutôt des projets communautaires. C'est-à-dire que les écoles seront aussi accessibles à la population, aux enfants de la population haute. Lorsque nous avons des centres de santé, c'est aussi accessible à la population haute, dans les provinces de l'Équateur, et ça donnait des très bons résultats.
C'est aussi l'objectif du HCR, de ne pas créer des camps pour les réfugiés.
Oui, c'est ça. Au lieu de créer des camps complètement fermés, où on ne trouvait que des réfugiés, on les met dans les sites qui vivent avec la population haute et avec l'approche communautaire. Donc il y aura des centres de santé, il y aura des écoles, il y aura des forages d'eau, et tout ça, ça sera ouvert et aux réfugiés et à la population haute. Ça a vraiment un double effet de renforcer la cohésion et plutôt les gens vivront mieux ensemble. C'est une expérience qu'on a fait depuis presque 4 ans avec les centres africains. On a aussi entamé ça avec les réfugiés burundais. Ça donne des très bons résultats. Plutôt que faire des camps fermés où il n'y a que des réfugiés, alors là, ils sont stigmatisés par la population haute.
Berthe Zinga, coordinatrice de la Commission nationale des réfugiés pour le ministère de l'Intérieur congolais.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump se croit capable d'arracher une victoire surprise à l'élection du 8 novembre. L'optimisme dopé par des sondages serrés, très serrés. Jacques Aristide.
La candidate démocrate Hillary Clinton conserve 88% de chances de gagner mardi prochain, d'après le modèle du New York Times, et 74% selon celui du site 538. Mais le rebondissement du week-end, avec la relance par le FBI de l'affaire de ses emails, l'a forcé à changer de script pour la dernière ligne droite, en revenant aux attaques au vitriol contre l'impulsivité ou le sexisme de son adversaire populiste, au lieu d'un message pour plus de mobilisation et de rassemblement. Selon un sondage ABC Washington Post, Donald Trump recueille 46% des intentions de vote contre 45% pour Hillary Clinton, une quasi-égalité statistique. D'autres gardent l'avantage à la démocrate. D'ailleurs, la tendance est au resserrement. Le libertarien Gary Johnson pointe à 3% des voix, loin des 5, voire 9% dont il fut crédité à son pic en septembre, peut-être affaibli par un réflexe de vote utile dans l'électorat de droite.
The guiding rule of the political class in Washington, D.C. is that they are looking out only for themselves.
La règle de conduite pour la classe politique à Washington consiste à se protéger elle-même, a déclaré Donald Trump lors d'un discours près de Philadelphie en compagnie de son colistier Mike Pence. Un discours consacré à la coûteuse réforme du système de santé de Barack Obama, votée en 2010, mais que le républicain a promis d'abroger et de remplacer dès son entrée en fonction.
Et Jacques, pour l'ancienne secrétaire d'État, la campagne se termine comme elle avait commencé en avril 2015. Dans l'ombre de sa décision malheureuse d'utiliser un serveur privé au lieu d'un compte e-mail gouvernemental.
Oui, Idrissa, un compte sécurisé pour communiquer de 2009 à 2013, lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine au risque de disséminer des informations confidentielles sur des réseaux privés. L'enquête subséquente du FBI avait été classée sans suite en juillet, mais les détracteurs républicains d'Hillary Clinton n'ont jamais abandonné leurs critiques et se sont sentis revigorés par la relance des investigations annoncées par le directeur du FBI, James Comey, vendredi dernier, ce qui a créé une tempête politique. Alors qu'elle affichait un optimisme serein la semaine dernière, savourant des sondages prédisant un raz-de-marée le 8 novembre, Hillary Clinton a dégainé les arguments qui ont fait mouche il y a quelques mois contre la personnalité du milliardaire, qui n'aurait, selon elle, pas l'envergure pour le bureau ovale.
Donald Trump has proven himself to be temperamentally unfit and totally unqualified to be president and commander-in-chief.
Quoi qu'il arrive, les Américains se réveilleront le 9 novembre dans un pays déchiré.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.